Bienvenue dans la deuxième saison de Cast. Le principe n'a pas changé. On reçoit toutes les semaines les personnalités qui font et défont la mode. Des talents, mais surtout des histoires de vie touchantes et inspirantes. Chacun leur tour, nos invités viennent nous raconter sans détour leur parcours, leur expérience et leur vision de l'industrie. C'est parti.
I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
Et la Fashion Week ?
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
What are those ? Dior clothes.
It's fashion art.
It is.
Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Ok, you know now, les dés sont jetés. It's mean like, what can happen, you know ?
That's all, that's all.
Cette semaine, on laisse la parole à Mélodie Thomas, journaliste mode et jeune autrice du livre « La mode est politique ». Avec elle, on retrace son parcours, de ses premiers papiers à la rédaction de son lexique engagé. En plus de son attrait certain pour la mode, on adore la dimension culturelle et sociale qu'elle donne à son travail, et on vous invite à aller le découvrir. Hello Mélodie.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous.
Merci à vous de m'avoir invitée.
Ça va, tu vas bien ?
Ça va, ça a été une journée un peu intense, un début de semaine un peu intense, je dirais.
Un début d'année un peu intense.
Un début d'année un peu intense aussi.
On est dans l'intensité aujourd'hui.
Exactement, mais ça commence à redescendre, ça devient cool.
Trop bien, tu vas nous raconter tout ça de toute façon.
Bon, comme tous nos formats, tous nos podcasts, on aimerait que tu nous racontes un peu ton parcours. Tu le commences où tu veux, si tu veux le commencer à l'école, c'est cool. Déjà, est-ce que t'es team cancre comme moi ou team
Arrête,
première de la classe comme ça,
ça.
Non, moi je suis la team fil rouge. Je suis la team qui a le pied, toujours un peu un pied devant, un pied derrière. Donc on n'est pas cancre, mais on n'est pas premier de la classe non plus.
On est sur le 10,2 de moyenne, des trucs comme ça, un peu...
Un peu 11, plus, 12. Ouais, plutôt du 12. On est sur un petit peu d'effort, mais pas trop d'effort non plus.
Ouais.
Tu viens d'où d'ailleurs ? T'es né où et t'as grandi où ?
Alors, moi du coup, j'ai une histoire un peu très française, je dirais. Moi en fait, je suis originaire d'Haïti.
Okay.
Et j'ai été adoptée quand j'avais 3 mois.
Okay.
Et du coup, j'ai grandi en Loire-Atlantique avec mes parents et mes frères et sœurs, qui sont également originaires d'Haïti. Et on a grandi en Loire-Atlantique dans un petit bled de moins de, je pense, 1000 habitants.
Ok, on a un nom de ville, un petit big up là à faire.
Oh là là, j'aime pas trop dire les noms de ville, on sait jamais, tu sais, quand t'as des stalkers après.
Ils vont trop retrouver les photos.
Ouais, j'ai trop. Non, mais tu sais, moi j'ai vu beaucoup d'épisodes d'Esprit Criminel, tout ça, j'aime pas trop donner.
Ah, mais on reste juste sur la région.
Ok, donc tu fais ta scolarité là-bas, dans cette région ?
Ouais. En fait, j'ai fait mon collège, enfin école primaire, bien sûr, collège également, et ensuite j'ai fait mon lycée en Vendée, parce que. En gros, la ville où j'ai grandi est pas très loin de Nantes. Mmh. Et donc, c'est un peu à la frontière Vendée-Atlantique, Loire-Atlantique.
Okay.
Et donc, j'ai fait mon lycée en Vendée. Et j'ai plein de potes qui sont plutôt du côté de la côte, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Hilaire-de-Riez. Là, je peux donner les adresses.
De toute façon, personne va y aller.
Et bien, vous avez tort, parce que c'est très, très cool. Si je vous dis Noirmoutier, ça, c'est un truc de Parisien.
Ouais, bien sûr.
Ouais. Voilà, là,
c'est
vous commencez.
C'est les pommes de terre, non ?
Les pommes de terre, le sel, exactement.
Ouais. Ah ouais.
Et la presqu'île aussi, qui est très belle.
Ok, ok. Non, j'y suis jamais allée, mais c'est vrai que j'ai déjà entendu pas mal.
Ah, mais voilà.
on note.
Pas de digue sur les petits bleds de France.
Non. On vient tous de petits bleds,
c'est
ici, t'inquiète pas.
Tant mieux.
T'es entre provinciaux.
Ouais.
Du coup, tu fais ta scolarité là-bas. Qu'est-ce qui te déracine, ou pas d'ailleurs, de la région ?
Tout simplement, je pense comme beaucoup, ça a été le fait de faire des études. Comme je disais, moi je suis quelqu'un, j'ai une scolarité, on va dire, aléatoire, dans le sens où j'aime travailler dans les matières qui m'intéressent. Moi, dès le début, j'étais intéressée par la littérature, donc je me suis dit pourquoi pas faire une fac de lettres. Donc je me suis orientée en lettres modernes. Ça a été un peu cata parce que, alors j'adore lire, mais alors moi, tout ce qui est linguistique, ça me...
C'est quoi linguistique ?
C'est en gros l'analyse de la langue.
Ça. Les commentaires détaillés, l'analyse de pourquoi, qu'est-ce qui veut dire, comment.
Exactement. Okay. Donc c'est vraiment, t'es sur la sémantique, tu vois. Et moi, c'est tous les trucs qui me... En fait, pour moi, c'est le moment où la langue devient des maths et ça m'intéresse plus.
Ouais, il y a un côté presque scientifique.
Hein. Exactement.
Moi, j'adorais ça.
Ah
ouais.
C'est vrai ? Moi, j'étais totalement nulle. Tu vois, Ferdinand de Saussure, tout ça, ça m'a perdu. J'étais genre, ok, mais non.
Ok, bon.
Donc tu vas au bout de la fac ou pas ?
Alors, je vais au bout de la fac, mais je change de fac, en fait. Je me barre à Bordeaux. Là, je me dis, pourquoi pas, je retente une année de lettres modernes à Bordeaux. Et en fait, ça ne me plaît toujours pas. Donc je pars enfin je recommence une licence et je fais une licence à l'ISIC, Institut des sciences de l'infocommunication de Bordeaux 3.
Okay.
Et voilà quoi, à partir de ce moment-là, moi ce que j'adorais avec la fac, c'est quand même que t'as pas énormément d'heures de cours. Donc ça te permet de monter des petits projets à côté.
Et avec... toi, t'avais monté quoi comme projet ?
Et bien avec ma pote Fen, à qui je fais un petit coucou, on a créé un webzine qui s'appelait Le Type, qui était un webzine culturel à Bordeaux, et c'était très cool parce que c'est au moment où, je sais pas si vous avez, si vous connaissez un petit peu la ville, mais c'est au moment où s'est monté l'iBoat à Bordeaux, il y avait aussi une nouvelle vague d'artistes, enfin d'une scène un peu pop-rock, c'est à ce moment-là, si vous connaissez aussi peut-être, O2N a commencé à faire parler.
Alors, l'iBoat, je connais, mais...
Ok, bah, O2N, c'est un groupe de rap bordelais qui est chambé, et voilà, donc on a commencé notre webzine comme ça.
Ouais.
Il s'appelait Le Type parce qu'on était un peu cachés, on n'avait pas trop envie de donner notre identité, mais ça nous a permis de faire plein de concerts et plein de fêtes.
Okay.
Et
genre en tant qu'organisateur
en tant que journaliste. Ouais.
Oh, ok, d'accord. Et vous étiez invité pour chroniquer.
Exactement. Okay. On chroniquait les concerts, on faisait des photos. Voilà
trop
quoi, on s'est bien marré.
C'était mon rêve de gosse. Hein.
C'est vrai.
Ouais. Ouais, journaliste.
Journaliste de musique, ouais.
Bah, franchement, ça a été une question pendant un petit moment où ouais. Je me suis dit, quand même, la musique, c'est cool. Et donc voilà, moi je pense qu'à partir de ce moment-là, le journalisme, j'ai compris que c'était un truc que j'avais vraiment envie de faire. Et arrivé en licence 3, c'est le moment où on fait tous des stages.
Mmh.
Et là, je dois me dire, faut que je trouve un stage. Bien sûr, tu peux pas trop le faire à Bordeaux. Parce que t'as moins de magazines et que c'est plus compliqué. Donc je me suis dit, on va tenter Paris. Et j'ai été prise dans un magazine qui s'appelle, peut-être que vous le connaissez ou peut-être que vous ne le connaissez pas, qui s'appelle Modzik.
Bien sûr.
Voilà, magazine de mode et de musique. Mm. Et du coup, je me suis retrouvée là et j'ai fait pratiquement tous mes stages de toute ma scolarité étudiante universitaire au Modzik. Non.
Ah ouais ?
3 ans, ouais.
C'est hyper rare ça, hein, d'avoir quelqu'un qui fait ses stages au même endroit.
Ouais, en fait la première année j'ai fait 2 mois et ensuite j'ai testé d'autres trucs. Je suis partie dans une petite boîte de prod qui s'appelle Télévision Style et qui habille les présentateurs télé. C'est situé à Boulogne et tout, c'était très cool mais c'était un petit peu moins mon truc, surtout que j'ai pas la télé donc je connaissais pratiquement pas la moitié des gens dont je devais parler. C'était le truc un petit peu gênant, tu vois. Ouais. Et puis je faisais des trucs du genre cette tenue que portait ma chinette dans telle série que j'avais pas non plus regardée, donc c'était pas non plus ma cam. Donc voilà, je suis retournée au Modzik aussi parce que c'est de la presse indépendante, ça te permet de faire beaucoup plus de trucs.
Ouais.
C'était hyper respecté, hein.
Ouais, le magazine avait... mais il y avait 2 magazines un peu coude à coude, c'était le Modzik et le WAD. On est un peu les 2 teams. Enfin, aujourd'hui, on se connaît un peu tous ceux qui sont passés dans ces médias, quoi. On est tous restés très potes.
On a eu Ibra ici.
Ouais.
De la qui est passé au WAD. Ouais. Ouais, moi, je connais plutôt Edem et Kenny.
Ouais, c'est la génération d'après.
Trop cool. Donc, tu fais ces premiers stages-là. C'est ça, le premier pas dans la mode ?
Ouais. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'à la base, moi, j'ai postulé en me disant que je voulais faire du journalisme musique, même si j'ai toujours aimé la mode, etc. C'était plus quelque chose de personnel, pas forcément quelque chose sur lequel j'avais envie d'écrire ou que j'avais même pensé à écrire.
Mmh.
Et en fait, le dire me dit, nous, on a un poste, c'est journaliste mode, donc un poste de stagiaire. Hein. Donc, c'est journaliste mode. Donc, il me dit, est-ce que tu te sens capable ou pas ? Je me dis, tente.
Okay. On part à l'aventure.
On part à l'aventure, pourquoi pas. Et en fait, ça m'a plu, mais je pense que ça m'a surtout plu parce que, comme j'étais dans un magazine transversal qui parle de mode et de musique...
C'est une approche culturelle de la mode.
Exactement. Et donc, direct, ça m'a un peu lancée dans ce que je fais aujourd'hui.
Ouais, c'est pas chiffon, c'est vraiment le côté opinion.
Exactement.
De ce qui se passe dans l'industrie.
En fait, je pense qu'il y a beaucoup de journalistes mode qui ont commencé, ils achetaient énormément de magazines, ils étaient directement fans de jeunes designers, enfin de designers tout court. Ils peuvent te citer des collections Chanel des années 80, 90, etc. Enfin, des vrais diggers, je dirais. Et moi, je suis un peu, avec une copine, on dit tout le temps qu'on est un peu un master escroc. On arrive un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et on arrive à se débrouiller, quoi.
Moi, je suis pas forcément d'accord, mais on en reparlera parce que je pense que ça a dû évoluer avec le temps. Mais du coup, c'est quoi ton rapport à la mode avant ça?
Alors, je dirais que j'ai un rapport à la mode qui est presque naturel, ou en tout cas qui est très très personnel, mais qui m'est dû aussi à ma mère qui. Donc voilà, moi j'ai des parents, ma mère elle est aide maternelle à la retraite, mon père c'est un ouvrier à la retraite, donc je viens pas d'une famille aisée je dirais. Mais du coup je trouve que c'est aussi un truc des familles populaires, c'est d'avoir un rapport aux vêtements qui est très dans la dignité, je dirais. Et notamment, enfin voilà, moi j'ai, en plus je viens d'une famille, en tout cas ma mère est croyante, mon père est un peu plus ambigu, je dirais, mais ma mère est catholique et en fait le vêtement du dimanche pour ma mère c'est quelque chose de très très important. Donc c'était vraiment le moment où déjà elle, c'était une des rares occasions où elle se mettait vraiment exactement sur son 31, je dirais, où elle mettait du maquillage, elle sortait ses plus beaux habits, etc. Et forcément, nous, c'était le moment où on était en full shine avec mes frères et sœurs, parce que c'est aussi, je dirais, le moment où tu représentes un peu ta famille au reste de la société, de la ville à laquelle tu appartiens. Donc, en fait, mon rapport à la mode, il s'est aussi développé, je pense, à travers ça, à travers cette idée de, à partir du vêtement, on peut se donner une forme de contenance. Et puis après, je pense que voilà, quand on est un enfant des années, enfin moi je suis née en 88, quand on est un enfant qui a grandi dans les années 90, c'est aussi le moment de toute la culture MTV.
Bien sûr.
C'est aussi au moment où en fait les grosses tendances elles commencent
à tomber.
J'ai envie
de ressortir les noms d'émissions, les Pimp My Ride, les Sweet Sixteen et compagnie.
Exactement. Et les premières émissions de télé-réalité aussi. Enfin, on baigne en fait dans une espèce de culture qui est très internationale. Et puis bon, on va pas se mentir, il y a aussi les Spice Girls quand même. Voilà, donc on a toutes ces petites références, toutes ces petites inspirations qui viennent un peu d'ailleurs et qui nous donnent envie et qui nous montrent aussi qu'on peut suivre des petites tendances, Enfin, je pense que c'est une période qui est vraiment très charnière dans le rapport qu'on a aux tendances et aux micro-tendances. On n'en parle peut-être pas assez aujourd'hui, on a l'impression que c'est juste une décennie un peu banale comme toutes les autres. Mais en fait, comme c'est au moment où on a vraiment commencé à, je dirais, à presque pousser un peu une espèce de globalisation culturelle, on a commencé à faire des choses que nos parents et à avoir accès à des informations et à des cultures auxquelles nos parents n'avaient pas accès.
Bien sûr.
Mais est-ce que c'est pas, c'est hyper intéressant ce que tu dis, est-ce que c'est pas lié aussi du coup avec la globalisation, mais plus dans le terme économique, avec, tu vois, l'arrivée des H&M, des Zara, où t'as un accès aux vêtements aussi et à la fast fashion qui est plus répandue.
Bah, le truc, alors pour la France, H&M, Zara, toute la fast fashion, je dirais que c'est plutôt arrivé au début des années 2000.
Ouais.
Mais pour moi, ça a vraiment commencé culturellement avec les années 90, où aujourd'hui, on a tous un terreau hyper commun de références culturelles. Et après, là où t'as totalement raison, c'est que vestimentairement, les marques de fast fashion nous ont aussi permis plus facilement
T'adopter les petites tendances.
Exactement,
et tout, tu vois.
Totalement. Mais bon, voilà, moi, dans les années 90, j'étais pas non plus toute vieille, mais moi, je me souviens, je sais pas, au moment où... je saurais même pas par où commencer, je me souviens des clips de Lauryn Hill, je me souviens des clips de Janet Jackson, enfin, c'était cool, quoi.
Ouais.
Et tu sentais que tu pouvais, c'était le moment où tout le monde portait un peu des baggies, enfin, il y avait un truc un peu... il se passait quelque chose et on sentait qu'on pouvait se l'approprier, quoi.
Ouais, c'est vrai. Ok, donc t'as quand même une même tes premiers moments mode, c'est des moments qui sont très liés à la culture.
Totalement, totalement. Mais après, c'est aussi parce que bon, je pense que c'est comme tout le monde. Moi, je suis une sœur cadette en réalité, donc j'ai un grand frère, une grande sœur, et forcément, bah, c'est un peu aussi les
influenceurs.
Ouais, c'est un peu les premiers influenceurs, je dirais.
C'est clair. Ok, donc là, tu fais ces stages du coup. 2-3, tu disais?
Ouais, je crois que j'ai dû bien faire 3 stages au Modzik. Le premier de 2 mois, et ensuite ça a été que des stages de 6 mois.
Ouais. Ok. Oh, tu te voyais y rester? C'était quoi la démarche?
En fait, je pense que, comme je disais, moi, ce que j'adorais au Modzik, c'est que c'était un magazine indépendant. Et que par conséquent, ça me permettait de faire des choses, je pense, aujourd'hui, avec le recul. En tout cas, je me rends compte que j'ai pu écrire beaucoup plus rapidement. Et aussi me créer un réseau beaucoup plus rapidement que certaines de mes consoeurs qui sont passées par une presse plus traditionnelle, notamment à travers les magazines féminins. Et puis bah, comme t'es dans la presse indépendante, en fait, tes collègues, très vite, ça devient tes potes. Enfin, on a tous fait nos stages ensemble. Donc, tu te fais une petite famille, je dirais. Donc, forcément, t'es bien, tu restes. Tu continues le truc, quoi. Moi, j'aurais bien aimé continuer plus, mais après, c'est tout le problème de la presse indépendante, c'est qu'il n'y a pas de budget.
Le budget.
Ouais. Et oui, ouais, ouais, on en revient là. Et donc, en fait, je me suis retrouvée à bosser chez Another Stories pendant... Moi, je ne suis pas restée très longtemps. Mais j'ai pris un mi-temps chez Stories parce qu'ils ouvraient la boutique de la rue Montmartre, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais.
Et j'y ai bossé pendant 6 mois.
Okay.
Et puis après, je me suis dit que...
Pour pouvoir continuer d'être à Madzik ou pas du tout?
Non, tu sais, c'est le moment où tu as des rêves et tu te dis non, mais pourquoi pas, je vais prendre un métier un peu sérieux. Et tu sais, en plus, ils te promettent un peu des trucs. Ils disent ah, peut-être que tu peux être merchandiser. Et je me dis, ah, merchandiser, c'est pas mal, tu fais les vitrines et tout. C'est un truc un peu aisé. Puis en vrai, derrière, tu as aussi des parents qui viennent pas de tous ces milieux très culturels et qui s'inquiètent beaucoup et qui se disent mais où est-ce
qu'est-ce
que ça va?
Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire?
Ouais, exactement. Genre, le mot dit que tu te marres bien, mais genre, comment tu vas payer un loyer? Comment tu vas manger? Comment tu vas faire tes trucs?
Ouais.
Donc voilà, j'ai suivi la voie de la raison. J'ai fait ça pendant 6 mois et en fait, j'ai compris très vite que c'était pas pour moi. Donc j'ai commencé à...
Le retail, c'est dur, hein.
Le retail, c'est dur et surtout, enfin moi, j'ai après, je pense que c'est aussi, enfin je vais parler en mon nom propre. Ce qui a été très difficile pour moi, je pense, c'est que, enfin la désillusion tombe assez facilement parce qu'il y a une forme de redondance dans l'activité. C'est aussi très physique le retail.
Ah ouais.
On en parle
ah ouais.
pas assez, mais c'est méga physique. Et en plus, moi, je déteste tous les délires de team building et corporatisme.
Ça m'angoisse.
Ouais, vraiment. Moi,
littéralement.
C'est vraiment ma phobie, quoi. Et donc, les gens qui te disent « Non, mais on a eu un shopping mystère samedi, c'était toi aux chaussures, il était trop content, bravo, félicitations. » C'est genre « Non, mais ça va. » Chiant. Ouais, je suis toujours mal payée, restons un peu tranquilles, quoi. Et puis, c'est aussi des métiers où, finalement, t'as très très peu de souplesse quant à la gestion de ton temps, ce qui, pour moi, est quand même assez primordial. Et en fait, très rapidement, tu veux poser des vacances et on te dit « Bah, nous, ça nous arrange pas. » « Bah, mais c'est pas mon problème, en fait. Enfin, » Je suis là en 25 heures, si t'as besoin d'avoir plus de gens en 35 heures, bah, peut-être que tu devrais payer des gens en 35 heures, je sais pas.
Ouais.
Donc voilà, il y a eu tous ces moments-là et je me suis dit qu'il était temps pour moi de partir. Et entre-temps, je continuais à piger au Modic, j'ai commencé à piger pour Dédicate Magazine.
Cool.
Ouais, Olivier, que j'aime beaucoup, qui tient le magazine, qui va bientôt fêter son anniversaire d'ailleurs. Et voilà, donc j'ai mis un pied dans la pige. Et
le Dédicate, ça arrive par ton réseau, par le fait que tu sois au Modic?
Ouais, en fait, le Dédicate, ça arrive exactement de cette manière-là. Après, bon, c'est des magazines, entre guillemets, concurrents à l'époque avec le Modic. Mais j'ai un ami, Pascal Vincent, qui travaille pour Diva Magazine à l'heure actuelle. Et qui connaît bien Olivier et qui me dit « je lui ai parlé de toi, envoie-lui un mail, etc. » Donc je fais un petit mail à Olivier, on se boit un café, il m'explique un peu ce qu'il veut. Je fais un premier numéro, puis un deuxième, puis un troisième, et puis
cool.
Ça se suit comme ça.
Ça s'enchaîne.
Quoi. Ça s'enchaîne, ouais. En vrai, franchement, j'ai eu beaucoup de chance au fil de ma carrière, si je peux dire comme ça. C'est un mot avec lequel j'ai un peu de difficulté, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que, en fait, j'ai rencontré très vite des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont laissé écrire des sujets que j'avais envie d'écrire aussi, quoi. Et qui m'ont aussi proposé des sujets parce qu'on sait très bien, en plus, en tant que pigiste, que c'est pas seulement à toi d'être force de proposition, mais il faut aussi avoir des gens qui te font confiance. Et qui de même se disent bon bah j'aime bien comment elle écrit ou j'aime bien ses idées donc
j'aimerais que tu le traites
autant que ça soit elle qui le fasse parce qu'on aime bien bosser avec elle, tu vois. Donc ça c'est quand même assez important en termes de réseau. Puis à côté j'ai bossé pour d'autres trucs, le magazine Swag Something We African Got, c'est un peu l'époque où la mode commençait à s'intéresser à ce qui se passait en Afrique. Et donc moi j'ai été...
C'est pas l'époque Fascist Black, tout ça là?
Exactement. Bah Fascist Black c'était un peu plus tôt, je dirais.
Okay.
Swag est venu, je sais pas, je suis très très mauvaise en date, mais je dirais que Swag ça devait plutôt être 2015-2016.
Ah ouais, donc après. Ouais,
ouais donc après, et j'avais essayé de faire un stage chez Fascist Black et ça s'était pas passé. Mais voilà, Swag est arrivé juste après. Moi j'aimais bien parce qu'on restait encore dans quelque chose de très transversal, c'est-à-dire parler d'art, de mode, de culture, enfin... Tout ce qui, moi, me passionne.
Ok.
Oh, c'est cool.
C'est quoi la prochaine étape, du
coup? C'est quoi l'étape d'après?
L'étape d'après, elle se fait, elle aussi, grâce à un contact, qui est ma copine Alice Pfeiffer.
Ouais.
Je pense que vous la connaissez. Et en fait, Alice, j'avais interviewé pour un papier du Modic que j'avais fait sur, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que j'avais fait sur le manque de diversité dans la mode à l'époque. Mmh. Et j'avais fait intervenir et bon, je sais pas, on avait sympathisé, mais rapidement en plus à l'époque. Et elle me dit j'ai des éditrices que je connais qui cherchent aussi des pigistes pour l'officiel, le glamour et le jalouse. Est-ce que ça te dit que je te mette en contact? Mmh. Et donc elle me met en contact avec elle. Encore une fois, ça part en café, on discute. Je présente un peu, moi, le type de sujet que j'ai été amenée à faire. C'est le moment où les magazines de mode, en fait, essayaient de se réorienter. Enfin, plein de magazines avaient fait déjà 2, 3, 4, 5 nouvelles formules. Et ils sentaient qu'ils étaient un peu en dissonance, je pense, avec
avec le web.
Avec le web et puis même avec ce que pouvaient chercher les lecteurs ou les lectrices de l'époque. Mmh. Donc, ils avaient envie de sujets qui soient plus sociétaux, plus transversaux.
Ouais, parce que, excuse-moi de te couper, mais depuis tout à l'heure, on parle de carrière. Mais toi, ça a été quoi? À cette époque-là, les articles que tu écrivais, c'était quoi le thème? C'était quoi le dénominateur commun de tous ces articles?
Le premier article que j'ai écrit, déjà, il faut savoir que le Modique, la particularité du journal aussi, c'est que le directeur de publication était noir. La rédactrice en chef, quand je suis arrivée, Flora Zoutu, était noire. Le directeur magazine, on va dire, Jos Dangean, était homosexuel. Donc, je baignais aussi dans une communauté. On va dire, de personnes qui, si toutes ne se décriraient pas comme ça, en tout cas, appartiennent à ce qu'on appelle des personnes minorisées, je dirais. Donc du coup, c'était aussi beaucoup plus facile pour moi d'être force de proposition sur des sujets sur lesquels peut-être d'autres magazines auraient été un tout petit peu plus réticents. Donc le tout premier article que j'ai écrit pour le Modzik, je me rappelle, je me suis levée, parce que c'est les réunions de rédaction comme ça, où c'est tous les grands, on va dire, qui parlent, tu vois, les gens qui sont installés, qui bossent dans le Mac depuis quelques années. Et
c'est puis, comme dans les films, quoi.
Exactement. Et du coup, là, je prends mon courage à deux mains et je dis, moi, j'ai une idée de sujet. Et à l'époque, c'était Humid Benan qui venait juste de faire une collection à partir de Jackie Robinson, numéro 42. Et donc, Humid Benan, qui est un créateur turc, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça.
Et qui fait donc que de la mode masculine. Et en fait, pour son casting, il n'avait utilisé que des mannequins noirs, que des mannequins hommes noirs. Et donc, voilà, je me lève comme ça, toute force de proposition, et je lâche mon morceau. Et donc, Flora Zoutu, la rédactrice en chef de l'époque, me dit « Ok, je te le prends, pond-moi un truc ». Donc, il faut savoir que moi, à l'époque, j'écrivais majoritairement sur le digital. Donc, c'était des petites news, mais c'était pas vraiment des sujets de fond, etc. Mais là, on me donnait 5000 signes.
Gros job d'investigation. Voilà.
Et il fallait que je prouve que je sois capable d'écrire un truc en sachant que j'avais pas accès au designer.
Ouais.
Donc, c'était entre la critique et une contextualisation aussi de ce qui se passait en ce moment, et notamment sur les questions noires dans la mode. Mmh. Donc voilà, je fais mon premier essai, etc. Toute contente de moi. Je vais voir Flora à son bureau. Je dis, voilà, j'ai fini mon papier. Donc j'avais imprimé et tout. Elle me dit, ok, je regarde. Elle revient vers moi, je crois, au bout de 30 minutes, une heure. Il y avait du rouge partout, tout sur la copie. Partout.
C'est pas bon signe.
Et je lis les trucs et je vois, c'est justifié par quoi, ça qu'est-ce que c'est, et ça qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, ouais, en fait, c'est dur. Et en même temps, moi, ce que j'ai aimé, c'est que je pense que dans plein de rédactions, juste la rédactrice aurait lu, se serait dit c'est nul. Ouais. Et elle m'aurait dit laisse tomber, quelqu'un d'autre va s'en occuper et basta.
Ouais.
Et là, elle est revenue vers moi et elle m'a dit V2 quoi.
Ouais.
Ça, c'est génial ça.
Et donc, ça, en fait, c'est trop cool.
C'est
direct.
Très encourageant.
Apprentissage direct. Donc, moi, j'étais trop contente en vrai parce que voilà, j'en ai parlé en plus il y a pas très longtemps, mais. Je trouve qu'aujourd'hui, on se focalise énormément sur réussir du premier coup, tout ce genre de choses. Alors qu'en vrai, quand t'as quelqu'un qui revient vers toi et te dit que t'as des matières à t'améliorer, je trouve ça trop cool. Ça veut dire que quelqu'un a vraiment lu ce que t'as écrit et qu'il y avait un vrai retour et qu'en plus de ça, t'allais vraiment pouvoir apporter quelque chose d'autre à ce que tu avais déjà écrit. Donc j'étais trop contente de moi, je lui ai fait ma petite V2 qu'elle a acceptée. Moment de fierté ultime. Et donc j'ai été publiée dans le numéro pour lequel il était prévu. Et après ça, j'ai eu un petit peu moins peur de prendre la parole en réunion de rédaction. Donc j'ai pu faire des papiers sur le féminisme et la pop culture. J'ai fait des papiers sur la diversité dans la mode. J'ai fait des papiers.
Ouais, t'as fait vraiment des trucs qui te ressemblaient, quoi. T'as pas fait du lambda.
Non, non, il y a un gros papier dont j'ai été très fière pendant très longtemps. Alors, en plus, je l'ai partagé il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux. Suite, me dirait ma rédactrice en chef, des suites du défilé Saint-Laurent qui a eu lieu pendant la Fashion Week, où en fait il faisait référence à Nancy Cunard, qui était appelée la femme au bracelet africain, parce qu'elle avait plein de bracelets africains partout autour des bras. Donc. Et en fait, le papier s'appelait Panafrica, et il explorait l'importance que la culture noire, et aujourd'hui je dirais les cultures noires, ont joué en fait au sein de la culture occidentale. Donc ça m'a permis en fait de retracer véritablement, je parlais de l'Atlantique noire de Paul Gilroy, et j'ai pu remonter jusqu'au hip-hop. Et donc ça m'a vraiment permis de mélanger à la fois mes connaissances en mode, mes connaissances en musique, et un petit peu mes connaissances dans les arts. Donc ce qui était cool, et c'est vraiment ce que j'ai aimé faire au sein du Modic, c'est vraiment de pouvoir mélanger différents types de références, pouvoir parler de mode en utilisant, je sais pas, des références en littérature ou en musique. Et ça, c'est un truc qui, je pense, moi, m'a beaucoup marqué et que j'essaye, ou en tout cas que je continue, à faire.
Ouais, que t'as emporté avec toi, hein, quelque part. Ok, donc tu fais tous ces petits jobs, parce que c'est pas des petits jobs, ces jobs en pigiste pour différentes publications. Il y a un moment où t'as envie de te rattacher à une publication, où il y a une publication qui t'a fait rêver?
En fait, le truc, c'est que la vie de pigiste, c'est très difficile.
C'est ce que tout le monde dit.
Ouais. En fait, même quand tu bosses, le problème, c'est qu'un, t'es jamais payé en temps et en heure, ce qui fait que toi, déjà, pour un, avoir une trésorerie d'avance, c'est très compliqué. Pouvoir te dire j'aurai vraiment cette somme à cet instant T, c'est très compliqué aussi. Donc t'es toujours en fait dans des va-et-vient de mouvements financiers, et en plus de ça, tu sais aussi, enfin moi, comme j'ai commencé très vite à piger, et même si j'ai adoré piger, etc., tu réalises aussi très vite que si tu veux passer un autre pan de ta carrière, si tu veux passer une autre étape, tu vas être obligé de passer un moment donné au sein d'une équipe, quoi. Vraiment appartenir à une rédaction en interne. Pour moi, c'était très, très compliqué, si je dois être honnête. Après, j'ai été honnête en entretien aussi, donc je n'ai rien à cacher. Mais ça a été très compliqué parce que je ne me reconnaissais pas. Et aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de mal à me reconnaître dans la presse française, notamment. Ouais. La majorité des magazines que je lis sont des magazines anglo-saxons. Je trouve qu'il y a une manière de raconter les choses et même d'aborder des sujets qui est beaucoup plus organique, peut-être un peu moins figée, plus libre.
Tu lis quoi ? Tu penses à quoi ?
Même quand on parle de féminin, moi, mon féminin préféré, par exemple, c'est le LUK. Je trouve que c'est... Si tu as envie de lire un féminin, c'est le meilleur féminin.
Ah ouais ?
Tu vas tomber, ok, sur des trucs très tendances, sur des trucs shopping, etc., tout ce qu'on veut. Mais ils vont toujours avoir des gros dossiers thématiques qui peuvent être lifestyle, qui peuvent être mode. J'avais lu un super papier fait par une journaliste sur l'essor des mannequins noirs, justement, subsahariens, dans la mode de ces dernières années, et comment c'était compliqué pour elle. Pourquoi on retrouvait beaucoup de mannequins qui viennent des mêmes pays, parce que c'est des questions de visa. Enfin, je veux dire, c'est des vrais... je trouve que... Voilà, c'est un magazine qui, certes, te donne ce que certains peuvent décrier dans les féminins, mais c'est aussi accompagné de véritables sujets de société que je trouve importants et des sujets de société qu'on retrouve à travers toutes les thématiques. Donc, comme je disais, ça peut être la mode, ça peut être le lifestyle, ça peut être les sujets de société, de beauté, tout ce qu'on veut.
Ok, ouais, donc tu dis lire plus de presse étrangère. Ouais. Ça a été compliqué pour toi de t'engager avec une publication.
Parce que cette période où tu piges, disons, comme tu disais, pour l'officiel, Glamour, tout ça, ça dure combien de temps ?
Ça a bien duré 3 ans.
Okay.
Pendant 3 ans, j'ai fait ça.
Mais du coup, il faut s'adapter aussi aux différentes... Enfin, le Glamour et l'officiel, c'est pas la même chose, par exemple.
Ouais.
Comment toi, t'appréhendes ça, justement, ton écriture selon les différents titres?
Alors, il y a certains médias avec lesquels c'est très simple, parce que quand on parle de l'officiel, enfin de l'officiel de l'époque, alors c'est certes un magazine très très mode, mais du coup tu peux aussi jouer à l'intérieur de ça. Par exemple, j'ai pu leur faire un papier sur l'histoire du noir, par exemple. La couleur noire, pourquoi est-ce qu'elle s'est imposée dans l'histoire de la mode. J'ai pu leur faire... je sais pas, j'ai plus tous mes papiers en tête.
Ouais, ouais.
Mais voilà, ça peut être des portraits de designers, ça peut être des sujets vraiment de société. Enfin, c'est pour eux aussi que j'avais fait un papier sur... Mais c'était pour eux. Je leur ai fait un papier sur la nouvelle vague de mannequins et ce que ça changeait. En fait, je retraçais un petit peu l'histoire du mannequinat et j'expliquais comment, à partir des mannequins des années 90, on était arrivé, on avait été confronté à des générations de mannequins qui prenaient la parole et qui s'engageaient beaucoup plus sur des sujets de société. Mmh. Donc voilà, ça c'est les trucs que qui m'ont un peu éclaté à faire. Et donc voilà, pour certaines publications comme celle-ci, ça a été facile. Le Jaloux, c'était très facile parce que en plus j'avais une rédactrice en chef, Delphine Valoir, avec qui le feeling est passé tout de suite. Des fois, elle me voyait faire un tweet dans la journée, elle me disait « Ok, je te le prends en sujet pour le prochain numéro ». Donc il y a des choses comme ça qui sont très organiques. Après, forcément, il y a des magazines. Le Glamour, c'était un peu plus difficile pour moi parce que j'ai pas une écriture marrante.
Ah ouais ?
Enfin, j'ai pas une... Enfin, peut-être que certains vont me dire...
T'as pas le jeu de mots
voilà,
qui va bien,
exactement.
Le truc.
Voilà. Et moi, en fait, des fois, il y a des sujets, faire des jeux de mots. Je suis genre, j'ai pas envie de faire un jeu de mots dans mon sujet. Et voilà, je leur avais par exemple fait un papier sur le Made in China et comment c'était en train de devenir un label... Enfin, c'était un label qui a été très décrié, notamment dans les années 90, et comment aujourd'hui, grâce à une nouvelle vague de designers chinois, on commençait à prendre au sérieux aussi, parce qu'il y avait eu une rénovation d'un point de vue technique, etc., du Made in China, mais on commençait à prendre ce label d'une manière un peu plus sérieuse, et comment on peut faire aujourd'hui pour le faire accepter, en fait, à des consommateurs. Et en fait, moi, faire des jeux de mots sur ça, j'avoue, ça me fait pas rire. Enfin, je suis pas dedans, tu vois. Mais après, je pense que c'est aussi à soi. Au début, on se dit, ah, c'est cool, je piche pour une publication qui est un peu connue et tout. Et puis après, il faut aussi se dire que c'est pas grave, on n'est pas fait pour tous les médias.
Ouais.
Et que le principal, c'est
que... Et que ton identité, elle a de la valeur aussi, en soi.
Ouais, et puis bon, surtout quand on est pigiste, finalement, ton identité, c'est tes papiers, quoi.
Ouais, bien sûr. Ah oui, quand je dis identité, c'est ça, hein, c'est ta manière d'écrire, ta plume, quoi.
Exactement, donc l'idée c'est vraiment que tout ce qui sorte t'en sois quand même un peu content, un peu fier et que c'est quelque chose surtout que tu puisses défendre sans rougir. Parce que c'est pas très grave au pire des fois de faire des sujets et t'as quelqu'un qui vient le critiquer et te dire ah, c'est pas cool, c'est machin. Si toi t'es un peu carré sur ce que tu racontes et que tu te défends, enfin t'es capable de défendre ça, c'est cool. Mais moi, défendre après des blagues sur des.
Ok. Non. Ça, on est à un moment, on se place où au niveau réseaux sociaux? Tu parlais de Twitter là?
Alors moi j'ai un rapport avec les réseaux sociaux qui est un peu compliqué. Je suis plus une observatrice qu'une véritable. Enfin dernièrement ça a un peu changé.
Wow.
Ça a un peu changé. J'admets ça a un peu changé. Je pense que j'ai trouvé une plateforme aussi où je m'éclate un peu. C'est Instagram.
Ouais, moi je te suis sur Insta. J'aime beaucoup ce que tu fais.
Je m'éclate pas mal sur Insta. Moi je trouve ça drôle.
Les stories de Mélodie je recommande à tout le monde. C'est très instructif, très drôle.
Non, mais en fait, ce que j'aime bien avec Insta, pour le coup, c'est vraiment le truc organique. C'est-à-dire que tu vas avoir passé un truc, t'as envie de le partager, t'as un truc un peu marrant à dire, ou un truc qui t'a un peu énervé, et tu peux le dire directement et passer à autre chose. Twitter, je trouve qu'on est déjà un peu plus dans l'explication, etc.
Ça s'envenime vite sur Twitter, surtout.
Ouais, ça s'envenime vite, et puis, enfin, je sais pas, c'est moins un truc qui me parle. Puis j'aime bien l'image, donc je sais pas, Insta, c'est un peu marrant, même si des fois je fais des blocs pavés de texte sur fond noir, où je m'énerve un peu. Mais non, je sais pas, je trouve ça me parle plus en fait.
Ouais, mais je te parlais plutôt niveau carrière, tu sais, j'ai l'impression que maintenant les publications font beaucoup des papiers qui vont fonctionner. Tu vois, on va chercher le truc avec le digital, avec le la performance, quoi. Qui va lire, combien on va faire mon article, comment il va être partagé, etc.
Ça, c'est surtout du... Ouh là là. Je dirais,
il est tard.
Ça, c'est surtout dû à deux plateformes en particulier. La première, c'est Google. Parce que
bien
référencement.
Sûr, Google Analytics et tout.
Exactement. Et la deuxième, c'est Facebook. Parce que pourquoi Facebook? Autant si Google, c'est le référencement, Facebook, comme ça a été un des premiers gros réseaux sociaux qui s'est installé partout dans le monde, on a pu créer des groupes, on a pu créer des fanpages. Et en fait, l'idée, c'était d'avoir accès directement à ta communauté. Et en fait, on s'est rendu compte aussi que ça drive énormément, mais énormément de visibilité pour les articles. Donc, quand tu as trouvé ton audience, sur Facebook et que t'as compris un peu le type de sujet qui la passionne, très facilement tu peux faire des très très belles vues à partir de Facebook.
C'est ça.
Mais moi tu vois je travaille sur le digital aujourd'hui au Marie-Claire et à chaque fois ce que je rappelle c'est que quand tu travailles sur le digital t'as autant de lecteurs, de types de lecteurs différents que tu peux avoir de plateformes. C'est-à-dire que tu ne t'adresses pas de la même manière Enfin, tu vas peut-être d'ailleurs pas partager les mêmes articles sur Facebook que tu vas le faire sur Instagram, que tu vas le faire sur Twitter, etc. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir, de connaître bien la communauté à laquelle on parle, quoi. Pour pouvoir partager le papier qui a le plus de chances de fonctionner, ou en tout cas, ne serait-ce que d'atteindre son public. Je pense qu'au début... Enfin, aujourd'hui, on s'arrête aussi beaucoup sur les audiences, et est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas, et bon, ça fait partie du job, on va dire.
Est-ce que toi, c'est des trucs auxquels tu penses en amont, avant d'écrire, par exemple ?
Alors, comment répondre à ça, très honnêtement ? C'est pas un truc auquel, moi, je pense en amont, parce que des fois, j'ai des idées de sujet, j'ai juste envie de le faire. Par contre, c'est des choses auxquelles je suis obligée de penser en temps d'eux, parce que derrière, il faut convaincre aussi. Après, je pense que ça, c'est quelque chose où, quand t'as été pigiste, t'as un peu cette capacité-là à pouvoir défendre bec et ongle les sujets que t'as envie de faire auprès de ta rédaction. Mais là où j'ai de la chance, c'est que j'ai une rédac-chef aussi qui comprend mon travail, qui comprend le type d'article que j'ai envie de faire. Et du coup, c'est aussi beaucoup plus facile d'être force de proposition dans un cadre où tu sais que tu vas être écouté et on va pas remettre en question tout le temps ton truc, tu vois. Donc voilà, après, c'est aussi à moi d'être maline et de trouver la
faille. Il y a quand même un peu de stratégie, quoi.
Il y a toujours un peu de stratégie. Il faut un peu louvoyer toujours. Le fil rouge. On marche toujours un peu sur le fil rouge.
Ouais, on t'a fait faire beaucoup d'exacts, nous qui sommes très chronologiques d'habitude. d'entrer dans une
rédaction.
Ouais.
Et donc, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que voilà, ça faisait 3 ans à peu près que je pigeais. Et le Marie-Claire avait pour volonté de changer son équipe, en tout cas de donner un nouveau souffle à son site internet sur le digital, sur le marieclaire.fr, devrais-je dire. Et donc, ils ont pris en rédactrice en chef Clarence Edgarosa, que vous connaissez peut-être. Qui a une formation de journaliste aussi, donc elle est devenue la rédactrice en chef du site internet, pardon. Et donc elle a pu former des équipes et faire venir de nouvelles personnes, dont moi, qui suis devenue ainsi la journaliste mode du digital sur Marie-Claire. Et au début, ça n'a pas été aisé, parce que moi, du coup, je venais de la presse écrite. J'avais bien sûr fait un peu de presse digitale sur le Modzik, mais encore une fois, presse indépendante. Donc, t'es beaucoup moins regardé sur les audiences et surtout, tout ce qui est SEO, etc., t'es pas vraiment le cœur du sujet.
Mais ça, c'est pas un calvaire pour une journaliste d'écrire en format SEO, parce que...
Vous pouvez me dire ce que c'est un format SEO, par contre, s'il vous plaît.
Alors j'espère bien expliquer. J'ai une amie dont c'est le travail, donc j'espère ne pas lui faire honte. Surtout que c'est un peu ce elle qui m'a formée.
Search Engine Optimizing, c'est ça?
Exactement.
J'avais même
pas l'acronyme, alors que ça va faire 4 ans que je bosse au Marie-Claire. Donc en fait, voilà, le SEO, ça va être tout ce que tu peux mettre en place au sein de ton article en termes de mots-clés, en termes de mots connexes, en termes de liens.
À l'intérieur de l'article.
Ouais.
Ah ouais, donc ça rejoint ma question d'avant, quoi.
Tout à fait.
Ouais.
Wow. Ah non, moi je pensais que c'était que sur les URL et genre des trucs cachés.
C'est vraiment
cachés.
Dans le corps de l'article aussi.
Pas
quoi.
Seulement, wow. Ça compte pour tes intertitres, ça compte pour ton titre, ça compte, donc comme tu l'as dit, pour l'URL, ça compte pour tous les liens que tu vas faire au sein de ton papier.
Tout comme tu commences tes phrases, tout.
Alors bon, nous après je pense que...
Vous n'allez pas aussi loin que ça quand
non,
même.
Non, en fait, c'est, encore une fois, je répète que j'ai une rédactrice en chef qui est journaliste, donc qui met aussi beaucoup de garde-fous parce que... Il y a des fous à garder. Et donc, elle, en fait, elle fait ce qu'on aime appeler du SEO intelligent. C'est-à-dire que le SEO vient peaufiner un papier, mais il ne vient pas avant l'article en lui-même. Donc, il y a des articles, forcément, en plus. Bon, après, moi, je dois vous, ce n'est pas forcément les trucs sur lesquels je vais me battre, mais tout ce qui est sélection, shopping, tout ça, forcément, le titre va être très SEO. Les intertitres vont être très très SEO, etc.
C'est très putaclic, en fait. C'est ça.
Pas forcément, pas forcément putaclic. Mais en tout cas, orienté d'une manière à ce que Google les repère très facilement.
C'est pas très fin, on va dire.
Okay.
C'est pas très fin.
Non, mais après, sur les sélections shopping...
Les 7 choses que vous ne connaissiez pas, ce truc, la troisième va vraiment vous surprendre.
Après, là où j'ai de la chance, on va dire, c'est que tu vois, sur une sélection shopping, tu peux pas vraiment faire ce genre de truc. Donc ça va plutôt être 10 trucs à découvrir telle saison, tu vois. C'est toujours pas... Enfin, moi, c'est toujours pas un truc qui me fait...
Non, mais il en faut, écoute...
Oui, non, bien sûr.
En tout cas, je ne me prononcerai pas sur cette question, mais en tout cas, ça existe, c'est fait. Voilà, donc moi par exemple, le SEO, si je prends un article que j'ai pu écrire pour le Marie-Claire qui va être « Où vont nos vêtements quand on les donne ?», qui est un papier quand même assez long, lors duquel un papier assez long.
Pendant lequel ?
Un papier assez long à travers lequel je parle de toute l'industrie de la mode de seconde main et comment majoritairement quand on décide de donner des vêtements à des associations caritatives, elles finissent majoritairement dans des pays du sud global, notamment en Afrique, où elles causent d'énormes problèmes de pollution aux populations locales. Des problèmes de pollution, mais aussi des problèmes d'éthique quant au droit du travail.
Ouais.
Et en fait, dans ce genre de papier-là, le SEO intervient de manière très minime. C'est-à-dire qu'il va intervenir sur l'URL, parce que où vont nos vêtements quand on les donne, finalement, c'est une question que se posent majoritairement des gens. Mais ça ne va pas impacter ma manière d'écrire, ni les intervenants que je vais choisir. Voilà. Donc ça va rester vraiment en souplesse.
Ouais, le tamis est tellement profond que tu ne peux pas t'amuser à...
Non. Et puis, au bout d'un moment, c'est aussi des questions d'éthique journalistique, quoi. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas être putaclic,
Petite question perso, l'anglais, c'est comment pour toi ? Parce que tu parlais beaucoup de publications étrangères, ça t'a jamais traversé l'esprit, justement, d'écrire en anglais ?
Alors, donc moi, l'anglais, je suis assez fluide, on va dire. Alors, j'ai un bel accent anglais, un bel accent français, pardon.
Ouais, mais entre le parler et être capable d'écrire, c'est un univers quand même.
Exactement. Alors, moi, j'ai écrit pour une publication anglaise qui s'appelle, anglo-saxonne, qui s'appelle Oda Magazine, qui est un magazine américain. Donc, je leur ai fait surtout des interviews, ce genre de choses. Il faut savoir que... Aujourd'hui, quand on est sur le digital, de toute façon, et même de manière générale, quand on est journaliste, on est amené à faire beaucoup d'interviews en anglais.
Ouais.
Donc, t'es obligé de prendre des petits trucs, quoi.
Mmh.
Donc, moi, j'ai mené quand même plusieurs interviews en anglais. Donc, t'es obligé de les retranscrire aussi et t'es obligé de les traduire.
J'adapte un peu.
Donc, je suis assez à l'aise sur l'écriture en anglais. Mais est-ce que je serais capable de faire où vont nos vêtements quand on les donne en anglais, je ne suis pas certaine. En tout cas, c'est un exercice auquel il faudrait que je me plie. Ça fait des années où je me dis non mais là, peut-être inscris-toi à un cours, essaye de voir et tout, mais j'ai jamais le temps. Donc un jour peut-être.
C'est pas grave, c'est l'opportunité aussi de se dire qu'on va s'inspirer de la presse étrangère pour nourrir la presse française peut-être.
Ouais, en fait...
Ou y trouver son inspiration quelque part aussi, peut-être.
Je trouve que c'est pas forcément une source d'inspiration, enfin, même s'il y a des trucs que je vois passer, que je trouve très cool, etc., parce que c'est pas les mêmes publics, c'est pas forcément les mêmes appétences non plus en termes de contenu. Mais ce que je trouve intéressant, c'est plutôt, moi, la technique, la manière de faire, la manière de raconter qui, moi, me parle beaucoup plus.
Mmh.
Et je pense que c'est peut-être plus là, dans la narration, où je pense que les journalistes britanniques ou américains se sentent beaucoup plus à l'aise dans leur manière d'écrire et sont beaucoup moins dirigés. Enfin, moi, j'ai un pote qui bosse à l'AFP. Le journalisme à la française, c'est quand même très, très structuré,
ah oui,
quoi.
Bien sûr.
Voilà, donc, ne serait-ce que, par exemple, si on prend la question de l'essai journalistique, c'est quelque chose qu'on fait très, très peu en France. L'idée de parler à la première personne pour parler d'un sujet, on va dire, qui soit personnel ou intime, et l'étendre à quelque chose d'un peu plus universel. En France, c'est très 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 peu fait dans la presse. Je crois que les premiers à l'avoir fait, ça a été BuzzFeed, finalement. À l'avoir emmené quand ils ont ouvert BuzzFeed France. Ouais. Sinon, on fait très très peu de jeux en France.
Ouais, peu d'essais d'opinion, c'est vrai ça.
Et bon, rien à voir vraiment du côté perso. Après toutes ces années à avoir été pigiste ou en free, tout ça, et là, tu rentres dans un truc qui est très cadré... Comment ça se passe du côté humain ? Les bons et les mauvais côtés ?
Dans une rédaction ?
Ouais, enfin même d'avoir un 9-to-5 job, quoi, tu vois, avec une structure et des horaires, tout ça.
Ouais.
Après autant d'années...
C'est compliqué, c'est très compliqué. Comme je disais, moi je suis quelqu'un, j'ai toujours aimé gérer mon propre temps, gérer ma propre liberté, et j'ai vraiment pas un sens du corporatisme très très élevé. Et en plus de ça, je suis très très nulle en rédaction d'email. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est très expressif et qui est très droit au but. Tout ce qu'on déteste dans une entreprise, de manière générale.
Il n'y a pas d'enrobage.
Non, je ne sais pas faire ça en fait. Non, mais là, on est au stade où c'est ma boss qui relit mes mails et qui fait en sorte que je ne déclenche pas des guerres internes à chaque fois que je pose une question, quoi. Donc, non, je suis très très mauvaise en ça. Donc, c'est un apprentissage quotidien, je dirais. Mais pour moi, ouais, c'est sans doute ce qui est le plus difficile. C'est la difficulté de pouvoir vraiment gérer son temps par soi-même. Ouais, je pense que c'est surtout ça, moi, qui me... C'est là où ça me gêne. Après, il y a aussi le côté... Quand t'es pigiste, c'est le temps. Le temps de rédaction. Tu penses à une idée, tu peux plancher dessus pendant... Enfin, tu peux te la garder en tête pendant des semaines et... À un moment, tu te dis, ok, ma deadline, elle est là. Faites un peu que je mette un petit coup de boost et que je l'écrive, finalement. Sur le digital, ça va beaucoup plus vite. Et ça va peut-être des fois beaucoup trop vite pour moi, parce que je trouve que c'est bien aussi d'avoir le temps de digérer une information, de prendre le temps, de bien se relire, de bien faire les choses et tout. Et t'as peut-être un peu moins la possibilité de le faire sur du digital. Ou en tout cas, il faut prendre ce temps-là. Et c'est là où on commence à entrer en friction, justement, avec toute la question des audiences. Toute la question du SEO, toutes ces questions-là. Parce que bah, le temps...
Ouais, parce que longtemps, là, sur l'information, depuis un moment, on est sur cette consommation, surconsommation d'informations. Mmh. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a maintenant une tendance, justement, avec les podcasts et les trucs comme ça, où les gens sont sur le temps long, sont sur les longs articles.
Bah, en fait, ça, c'est... Moi, quand je suis arrivée au Marie-Claire, j'avais justement toute cette team SEO, en tout cas la directrice de cette team SEO qui me disait...
Je pensais pas qu'on allait parler tant d'SEO dans cet épisode.
Oui, désolé, des formations professionnelles.
Non, mais non.
Donc voilà, moi, quand je suis arrivée, on m'a dit non, mais les articles, ça fonctionne pas. Ce qui fonctionne, justement, c'est les sélections shopping. Donc, il faut savoir que, comme je disais, moi, je ne lis pas, très peu de presse française, mais justement pour ces raisons-là. C'est-à-dire que moi, cliquer sur les 150 jeans à porter la saison prochaine, ça me donne vraiment envie d'hurler dans un coussin. Donc, très vite, forcément, ça crée des tensions, je dirais. Mais moi, mon objectif, plus ou moins, ça a été de prouver que c'était faux. Et que, qu'en fait, tu peux faire des papiers très longs et qui fonctionnent. Et aujourd'hui, voilà, quand on regarde le top 10, mais pas seulement de ma rubrique, hein, de toutes les rubriques de mes collègues aussi au Marie-Claire, ce qui fonctionne, bah, c'est les papiers longs. C'est les papiers qui ont été pensés avec un angle, qui ont été pensés avec une connaissance de l'audience. Parce que c'est ça aussi le SEO. Hein, y a un truc très générique de « Ah, regarde, ils ont fait ça dans tel magazine. Il y a un mot sur lequel se jeter. » Et donc, quand on veut garder un peu d'intégrité journalistique, je dirais, mais surtout quand on aime son taf, parce que moi, à la base... Je fais pas du marketing, hein, c'est pas mon travail. Et ben, on est obligé de lutter un peu pour garder cette forme de droiture.
Et de fond, quoi.
Et de fond, ouais, totalement.
Est-ce que c'est ça, du coup, qui t'a donné envie d'écrire ton livre? On parle de temps long, de réflexion, de choses, tu vois, que t'as pu peaufiner, auxquelles t'as réfléchi pendant longtemps. J'imagine que c'est le cas de ce projet-là. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu.
En fait, je vais être la fille très énervante qui dit qu'elle a eu de la chance ou que ça s'est encore fait sur un hasard. Et pour le coup, à partir de mon compte Instagram, comme quoi, ne négligez pas vos stories sur Instagram, s'il vous plaît. Vous pouvez des fois attirer des gens qui vont aimer vous entendre dire des bêtises. En fait, il se trouve que mon éditrice m'a contactée un moment sur Instagram en me disant qu'elle aimait bien mon compte, qu'elle suivait un peu mon taf et qu'elle voilà, elle lançait une nouvelle collection au sein de Hachette Pratique qui s'appelle aujourd'hui Les Insolentes. Et donc l'idée était de développer un axe un peu plus féministe et inclusif au sein d'Hachette Pratique à travers une collection de livres dédiés.
Hachette Pratique, c'est une division d'Hachette qui est spécialisée dans quoi ?
Qui est spécialisée dans tout ce qui va être voyage, cuisine. Alors, je ne vais pas m'avancer plus parce que c'est les deux thématiques que je connais bien. mais en tout cas, voilà, c'est le type de sujet qu'on va y trouver. Et là, elles avaient envie, en fait, voilà, de d'ouvrir un peu ce côté pratique à des sujets contemporains et notamment inclusifs, féministes, etc. Donc voilà, elles m'ont contactée, elles m'ont dit que si j'avais une idée, elles seraient très amènes de l'écouter et d'avancer avec moi sur ce projet. Il se trouve qu'elles m'appellent le samedi et que le lundi après-midi, j'ai le Covid. et j'ai le Covid énervé de quand tu lèves ta tête de ton oreiller, t'as juste envie que ça s'arrête, que les Doliprane ne marchent pas et t'en as marre. Et marcher de ta chambre à ton salon, c'est dur. Donc en fait, j'ai été 3 semaines comme ça, totalement claquée. Et quand même, nous, au Marie-Claire, on a des temps très très forts au moment, enfin dans l'année. Et un des temps forts, c'est la fin d'année. Donc moi, elle me contacte en octobre 2020. Et donc, fin d'octobre 2020. Et donc, à partir, je commence à me rétablir du Covid, on va dire, mi-novembre. Et en fait, à partir de mi-novembre, je suis dans tout ce qui est sélection pour les fêtes de fin d'année et préparation de mon départ en vacances.
Ouais.
Donc en fait, j'ai pas du tout le temps de me pencher sur ça. Je leur dis, là, en vrai, mon année, elle est pliée. On se voit en janvier et on voit ce qui se passe. On se recontacte début janvier. J'ai eu le temps rapidement d'y songer chez mes parents. Tu vois, t'es là, t'es en train d'afficher des trucs. Et je me dis, ah, pourquoi pas. Et je leur dis, j'ai une idée. Je me dis, pourquoi pas faire un dictionnaire de la mode politique qui reprendrait en fait tous les grands mots, ou en tout cas tous les mots qu'on a pu entendre dernièrement, qui ont traversé l'industrie de la mode, et qui expliquerait la manière dont s'imbriquent vêtements, femmes et pouvoir.
Wow.
Donc je leur propose comme ça, et elles me disent, ok, banco.
Tu m'étonnes.
Tu penses à quoi intuitivement comme mot?
Bah, en fait, voilà, moi ça va bientôt faire 10 ans que je bosse, et c'est quelque chose que j'ai découvert ou redécouvert en écrivant le livre, parce que ça m'a permis de fouiller un peu dans mes archives perso, tu vois. Et en fait, c'est des sujets que je traite depuis que j'ai commencé le journalisme, les questions de diversité et d'inclusion. Les questions, tu vois, genre Black Models Matter, c'est un des premiers papiers que j'ai écrit quand je suis arrivée au Marie Claire, sur la place des mannequins noirs dans l'industrie de la mode. Voilà, il y a plein de thématiques comme ça qui me viennent. J'ai écrit aussi beaucoup sur la question du sexisme. J'ai fait un gros papier pour un magazine indépendant qui avait été lancé par une copine qui s'appelait Dull Magazine.
Mmh.
Voilà, si vous l'avez en tête. Je lui avais fait un papier sur Terry Richardson.
Ouais.
Et ouais. Ouais, mais parce que en fait, tu vois, c'était ouf, parce que moi, quand j'ai commencé à écrire, finalement, tu vois, genre 2011, c'est les premières accusations d'agression sexuelle contre Terry Richardson. 2013, il y a une nouvelle vague. Et en fait, pour que les choses prennent de l'ampleur et que la mode commence à se dire, on va peut-être arrêter de bosser avec ce mec, faut attendre 2017-2018, quoi.
Ouais.
Faut attendre MeToo. Donc au final, ma carrière, entre guillemets, a été aussi jalonnée par toutes ces conversations qu'on a pu avoir autour du droit des mannequins et autour de tout ce qui manquait finalement à la mode pour être considérée comme une industrie qui soit vraiment une industrie d'empowerment comme elle prétend l'être depuis maintenant des années. Quoi. Et donc voilà, donc j'avais des mots comme ça en tête, bien sûr le body positive, donc il y avait des mots comme ça faciles, mais pour être honnête, moi, quand elles m'ont dit « Ok, banco », je me suis dit « Ok, je vais essayer de faire les choses propres parce que je suis pas quelqu'un de très organisé, donc je suis obligée de m'imposer une forme de rigueur.
Ouais. »
Donc je me dis « Je vais faire un truc propre. » J'avais déjà des copines qui avaient écrit des livres, donc Jennifer Padjemi qui a sorti « Féminisme et pop culture » et Alice Pfeiffer qui a sorti « Je ne suis pas parisienne ». Donc j'aurais dit « Envoyez-moi vos synopsis, que je vois un peu comment on structure le truc, etc. » Donc je m'inspire un peu de leur structure. Et moi, c'était un peu différent parce qu'elles, elles étaient vraiment parties sur des essais... qu'on lit, on va dire, de la première page à la dernière page, et moi
comme
je partais sur
presque.
Exactement. Et moi je partais sur l'idée d'un dictionnaire, donc fallait aussi que je garde en tête le format que j'avais envie d'avoir. Et donc voilà, je me penche sur le synopsis et je me dis bah faut quand même penser à un début de sommaire. Et au tout début j'ai une quarantaine de mots comme ça qui s'inscrivent, qui viennent. Et puis bah au fur et à mesure on rationalise. Ouais, on rationalise parce que déjà, j'avais vraiment à cœur que chacun des mots, ou presque en tout cas, soit vraiment en rapport avec toutes ces notions, enfin ces trois notions clés que sont femme, vêtements et pouvoir. Donc c'était déjà aussi une manière d'affiner, d'affiner, on va dire, les termes que je choisissais. Et puis j'avais aussi envie de mots, entre guillemets, inattendus, ou en tout cas qui créaient la curiosité. Parce que dès le départ, mon ambition, ça a été aussi de parler à un public qui n'était pas forcément conquis sur ces sujets-là. Et aussi d'écrire quelque chose qui soit suffisamment accessible pour que même les personnes qui soit ne soient pas intéressées par les questions de mode ou juste ont vu passer des termes comme appropriation culturelle un million de fois et ont vu les polémiques qu'elles ont déclenchées, mais sans vraiment comprendre en fait
bien sûr.
Pourquoi est-ce que ça déclenche autant les passions des gens, qu'ils puissent se dire je suis capable de lire et d'avoir une idée, en fait, de pourquoi ça concerne également la mode. Et d'ailleurs, cette idée de terme qui concerne la mode, c'était aussi primordial, parce que trop souvent, c'est les reproches qu'on entend de la part de politiques et de polémistes, comme on aime le dire, c'est de dire que les wokistes, les wokistes islamo-gauchistes prennent des thématiques américaines et les imposent en France, et aussi qu'ils imposent à des industries culturelles des problématiques qui ne sont pas les leurs. Donc en ayant ça en tête, on est aussi obligé de, enfin moi en tout cas je me suis obligée à plusieurs choses, utiliser le plus possible d'anecdotes mode, d'éléments mode, d'histoires de mode, pour bien montrer que c'était une conversation mode. Et utiliser des exemples français pour montrer que c'était aussi une problématique française. Voilà. Et donc voilà, je me suis lancée comme ça. Donc voilà, là comme je le dis comme ça, on dirait que c'est hyper facile.
C'est levé un matin. Je pense pas que c'est hyper facile. Non, je te rassure.
Tant mieux, parce que ça n'a pas été facile et surtout.
Un processus long pour toi. Combien de temps ça te prend?
En fait, écrire le synopsis finalement, ça me vient assez facilement. Ce qui est plus dur après, c'est quand on se retrouve devant son petit ordinateur et qu'on se dit, bah maintenant ma grande,
faut y aller.
Faut y aller, par où on commence?
Toutes tes recherches, tu les fais toute seule ou t'as des gens avec qui tu travailles? Comment ça se passe?
Eh ben non, justement, toute la complexité était aussi là, c'est-à-dire que en plus, pour des raisons évidentes, avec une thématique comme celle-ci, pour les éditrices, il semblait logique que le livre sorte en amont des présidentielles, ou en tout cas pas très loin autour des présidentielles. Par conséquent, ça me laissait un temps très court, c'est-à-dire que on parle janvier 2021, on est en pourparler, etc. Moi, je trouve une agent parce que forcément, elles me disent qu'on parle à Valoir, qu'on parle un peu business. Je n'y connais absolument rien, je déteste gérer les questions administratives, financières, tout ça, je suis nulle. Donc, je fais appel à Ariane Geffard voilà, exactement, qui donc a défendu mon
bec
projet bec et ongle.
Elle est géniale.
Exactement, ouais, franchement, elle a fait un taf ouf. Et en plus, je voyais passer les emails et je me disais, mais toi, t'aurais dû répondre à ces questions, t'aurais été mais perdu, quoi, totalement largué. C'était un travail, un vrai travail, elle le fait d'une main de maître, de maîtresse. Et donc voilà, donc il y a eu tout ce temps donc de négociations pour parler, etc. D'autant qu'entre-temps, comme en plus Ariane a pris le projet en main, elle l'a aussi envoyé à d'autres maisons d'édition pour voir si elle serait intéressée ou non. Il se trouve qu'on est resté sur Hachette parce que beaucoup de maisons d'édition ne comprenaient pas forcément mon sujet. Je pense que c'est aussi là où moi j'avais une certaine frayeur. C'est que, je ne dis pas du tout ça pour me mettre en avant parce que ce n'est pas du tout le but, mais la plupart des livres qui ont été écrits sur la portée politique de la mode concerne soit le vestiaire masculin, parce qu'au moment de Nicolas Sarkozy, dans les années 2000, début des années 2010, donc lui c'est 2012, ça a été une vraie conversation parce qu'il avait sa sortie sur les Rolex, sur les costards, etc. Donc tout le monde s'est intéressé un peu. Ouais, aussi, exactement. Donc mais l'air de rien, j'en parlerai peut-être plus longuement dans un autre format un jour, mais l'air de rien, ça a été quand même une période très très charnière sur la manière dont on a commencé à envisager la mode comme autre chose que du superficiel. Alors ça s'est fait à travers le vestiaire masculin et le vestiaire des hommes politiques, mais en tout cas ça a ancré quelque chose qui est sorti surtout de la mode en elle-même, c'est-à-dire que même des publications généralistes ont commencé en fait à prêter une attention à ce qui pouvait se faire à ce qui pouvait être dit à partir de la manière dont on s'habille. Donc pour moi ça a vraiment débloqué quelque chose en termes de discours. Mais voilà, pour reprendre le fil, là où ça va être difficile, c'est que voilà, s'il y avait des ouvrages qui concernent le pouvoir et la politique pour le vêtement masculin, pour quand on cherche du côté du vêtement féminin, en tout cas traduit en français, c'est très compliqué. Moi, j'ai fait mon petit benchmark au tout début parce que tu viens avec ta petite idée, mais l'idée c'est quand même d'aller regarder si personne n'a déjà eu la même et si personne ne s'y est penché. Et donc, je fais des petits tours librairies, je regarde comme ça sur tous les sites, etc. Et en fait, je vois que ça n'existe pas. Moi, après, ça fait 4 ans que je donne des cours dans des écoles de mode, etc. Même un peu plus. Mais je vois qu'il y a forcément des universitaires qui travaillent sur ces questions. Mais l'écriture académique, c'est quand même un type d'écriture en soi. Et moi, j'avais à cœur de m'adresser pas au plus grand nombre possible, mais en tout cas être accessible. Mon référent, c'était de me dire, je veux que ma mère ait pu ouvrir le livre sans se dire que ça va lui casser la tête. Donc j'avais ça en tête. Donc du coup, ouais, quand on prend tout ça en considération, finalement, il n'y avait pas, en fait, d'ouvrage. Ce qui, à la fois, on peut se dire, ah, c'est rassurant, t'arrives, t'es toute seule et tout. Mmh. Mais en vrai, c'est.
Ouais, ça double tranchant.
Ouais, en vrai, c'est méga flippant parce que tu te dis, je suis toute seule. Je suis un peu toute seule dans mon délire. Donc là, je peux me faire taper dessus par les universitaires, par les gens qui ont marre des wokistes, par tout le monde, quoi. C'est un peu compliqué. Surtout que je ne suis pas une universitaire, je ne suis pas historienne de la mode. Je suis pas sociologue non plus, donc on vient aussi avec...
Non mais tu viens pas avec cette prétention, donc pour moi, il n'y a pas de sujet en fait.
Oui, oui, c'est sûr, mais t'as quand même un peu cette petite
l'appréhension,
appréhension, parce que tu te dis, faut pas se foirer, quoi.
Ouais, bien sûr.
Et donc, pour répondre à ta question qui était sur les recherches, l'idée, c'est que j'ai dû, en un temps très court, là, aujourd'hui, le livre, il fait 27 mots. Enfin, il comporte 27 mots. Et donc, j'ai dû faire la recherche pour 27 mots. Et une recherche qui, à la fois, devait se baser, comme je disais, sur des histoires de mode, mais tout en leur donnant un appui théorique, un peu, et historique, en tout cas, sérieux, quoi. Donc, ça a été... Il y a des mots où ça a été beaucoup plus facile, parce que j'avais déjà travaillé sur ces sujets. Comme ça a pu être le cas pour Black Models Matter, le body positive, même si body positive a été un peu plus tricky que ce que j'avais pensé. L'agisme a été relativement facile à écrire parce que je savais un peu où j'allais. Mais il y a des mots pour lesquels ça a été un peu plus compliqué. Par exemple, coton, pardon. Ça a été un mot difficile. En gros, coton, c'est un mot que j'ai pensé pour raconter les histoires d'exploitation dans la mode. Et ce qui était compliqué avec ce mot, c'était que... Alors, on peut raconter l'histoire entière du coton. Il y a un mec qui en a fait un bouquin chamé qui s'appelle L'Empire du coton et sur lequel je me suis basée, donc je parle donc dans le livre. Mais tu vas perdre tout le monde. Et puis, bon, mon idée, c'était quand même les femmes.
Mmh.
Et puis, quand on parle de coton aujourd'hui, qu'est-ce qui est d'un point de vue actualité, on parle quand même de la question ouïghour. Donc voilà, j'avais toutes ces thématiques-là.
Tu fais rentrer tout ça dans un bouquin, quoi.
Voilà, il fallait faire rentrer tout ça, surtout dans un mot.
Ouais.
Mmh.
Enfin, c'est même pas le livre en lui-même qui est consacré à ça, mais l'idée, c'était de résumer le mieux possible, le plus clairement possible, en utilisant des exemples mode, tout en les appuyant donc, sur des réalités historiques et contemporaines, sans perdre un lecteur. Et bon, l'avenir dira si j'ai réussi.
ça donne très envie de le lire, en tout cas.
mais voilà, il y a des mots comme celui-ci qui ont été très compliqués parce que je me suis retrouvée à faire des recherches. Alors déjà, lire un livre entier, L'Empire du coton, où tu lis quand même... après, c'est très intéressant. Hein, on comprend aussi que toute l'idée de colonisation, elle s'est aussi basée sur ces matières-là, sur les matières premières. Donc forcément, on est obligé de parler d'esclavage.
Mais
on
c'est est toujours aussi, le cas. Hein.
Exactement. Donc voilà, on parle d'esclavage, on parle de la traite atlantique. On parle aussi, bien sûr... de toute la spoliation qui a été faite des terres amérindiennes aux États-Unis, des natifs américains, parce qu'on comprend très vite que parce que leur sol était friable, il a fallu les faire partir le plus rapidement possible
pour pouvoir planter créer... très rapidement.
Exactement, planter très rapidement, et donc ensuite il fallait faire travailler des gens dans ces plantations, et donc on a fait venir une traite, on a commencé la traite négrière. Donc en fait, quand on regarde l'histoire du coton, tant de la faute de la fibre en elle-même, mais en tout cas, elle est jalonnée en fait par l'idée même de l'exploitation. Et comment les femmes s'inscrivent dans cette idée, dans cette histoire-là? Elles s'inscrivent parce que c'est Orsola De Castro qui est la co-créatrice du mouvement Fashion Revolution qui disait jusqu'à preuve du contraire, la mode n'a toujours rien trouvé de mieux qu'une femme derrière une machine à coudre. Et c'est la réalité. Et aujourd'hui, quand on parle en plus du sud global, qui fait la cueillette, qui file, du début de la chaîne jusqu'à la fin, ce sont des femmes qui travaillent ces matières-là. Donc voilà, donc ça a été toute une histoire à raconter, j'espère, de manière fluide.
Ouais.
Mais voilà.
Mais tu t'es fait assister du coup pour tout ce travail-là ou pas du tout?
Oui, parce qu'au final, t'as pas répondu, donc tu t'as fait tes recherches toi-même.
C'est moi qui suis là avec un petit surligneur à prendre des notes, j'aurais même pu vous emmener, tu vois, j'avais acheté... Tu vois, des fois, je suis un peu futée quand même, il faut que je me félicite de temps en temps. parce que je me suis dit, tu travailles quand même sur un lexique slash dictionnaire, il faut quand même que t'aies un truc un peu carré sur lequel tu te retrouves, sinon c'est des feuilles volantes partout. Le carnet d'adresses. t'as ce petit répertoire que personne n'achète.
C'est bien vu ça.
Eh ben ouais, et je me suis dit, évidemment. Là c'est trop bien, donc j'avais écrit proprement tous mes trucs et tout. Bon, maintenant c'est un bazar sans nom, mais ça m'a permis en tout cas de prendre énormément de notes de toutes mes lectures. Après, je vais absolument pas mentir, hein, j'ai pas pu lire tous les ouvrages que j'ai cités. J'ai dû faire des sélections de chapitres. Mais en tout cas, voilà, non, j'ai dû faire toute la recherche. J'ai dû aussi, parce que je savais que j'allais être accompagnée par une illustratrice qui est Louise Heinzer et qui a fait toutes les illustrations à l'intérieur du livre.
Pour la définition aussi à l'intérieur, c'est pas que la couverture.
C'est pas seulement la couverture. Il y a aussi, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'il y a... Je crois que je vais dire une bêtise, mais il y a une dizaine d'illustrations à l'intérieur du livre. Et en fait, l'idée, c'était aussi parce que forcément, Héloïse est illustratrice, mais elle n'est pas, spécialisée dans la mode. Par conséquent, il fallait aussi qu'elle puisse appuyer son dessin sur quelque chose. Je me suis aussi amusée à lui faire des petits classeurs avec plein de sources d'inspiration. Des notant bien. Ouais.
Trop chou.
Ouais, ça a été aussi quelque chose. Après, bon, moi, ça m'aidait aussi pour mes recherches, mais il a fallu aussi lui donner quelque chose sur lequel ça...
Trop, trop bien. Comment ça se passe techniquement? T'as une... Parce que le temps que t'y as mis, l'énergie, etc., t'as une avance quand on te demande d'écrire un livre? Comment ça se passe de manière très technique, sans entrer dans les détails financiers, mais juste comprendre un petit peu quel est le cheminement?
Alors, en gros, ouais, effectivement, tu as une avance. Je pense que c'est ce qui est fait de manière assez générale. T'as une avance avant d'écrire le livre, et tu touches ensuite une avance quand tu rends le manuscrit final.
Ouais.
Quant à la VF. Donc voilà, nous, on est parti sur ça. Et en fait, moi, je suis quelqu'un de, comment dire, facilement distraite. Et donc, je me suis dit, cette première partie, enfin, cette avance, la première en tout cas, il faut que tu en profites pour partir, parce que si tu restes à Paris, ce bouquin, en septembre, il n'est toujours pas commencé, parce que tu auras fait... En plus, c'était un peu tricky, parce que c'est le moment où t'es post-confinement.
Ah, où t'as envie d'être dehors,
t'as pas trop envie
de faire
d'être
des choses.
Tes bouquins.
Et surtout, tes potes sont très genre, ah bon, c'est pas vu depuis longtemps, viens, on va boire un verre et tout. Et je me suis dit, ça va très très mal partir. Donc, je suis partie un mois, je me suis fait un gros kiff quand même. Je suis partie un mois à Rome pour écrire le bouquin. Et ça m'a, franchement, je ne regrette pas, parce que j'ai pu écrire j'écris un tiers du bouquin en un mois.
Trop bien.
Donc, ça a été quand même. Ça a été prolifique, dirais-je. Les choses se sont corsées quand je suis revenue à Paris, parce que il a fallu ajouter le Marie-Claire dans l'équation.
T'as pris un mois off en congé,
ça va être... J'ai posé des CP. Comme on avait été en confinement, j'avais pas posé de vacances, donc j'ai posé...
Ce qu'il fallait pour que tu sois
exactement
bien.
Une vingtaine de jours pour être tranquille et me concentrer sur ça. Et donc voilà, quand je suis revenue, c'est là où il a vraiment fallu que je trouve une organisation. Parce qu'en vrai, c'est chronophage de fou. Et puis, là où je suis contente, c'est que comme je m'étais déjà lancée, c'était beaucoup moins difficile de dire aux gens, ce n'est pas possible. Donc j'ai passé là les 9 derniers mois à dire aux gens, ce n'est pas possible. Non, je ne peux pas venir ici. Non, je ne peux pas faire ça. Donc voilà, ça veut dire le matin, j'avais mon réveil qui sonnait à 7h. Il fallait que je sois comme ça devant mon ordi. À 8h, je me disais de 8h à 9h30. On était encore en télétravail, donc... Ouais. Marie-Claire, je commence à 9h30, donc je me disais, bon, 8h, 9h30, t'as 1h30, faut écrire quoi. Et puis je commençais à avoir les retours aussi, parce que j'avais rendu les premiers papiers à l'éditrice, donc j'avais aussi les corrections à faire.
Le fameux stylo rouge qui revient.
Donc voilà, ça a été j'ai dû jongler, on va dire, à travers ça, surtout qu'en octobre est arrivée la Fashion Week, autant te dire que là, j'ai pu bosser sur rien en concernant le bouquin. Du coup, j'ai dû bosser plus pendant mes vacances de Noël. Et le livre, je l'ai finalement mis la touche finale, autrement dit l'introduction, la conclusion et les remerciements, fin janvier. Donc, ça a été très très compliqué. Je dois dire que début janvier, enfin tout le mois de janvier, je l'ai très très mal vécu. Parce que c'était beaucoup de choses à faire en même temps, parce qu'en plus, pourquoi ne pas aimer les défis? Mi-janvier, je commençais un nouveau poste en tant qu'enseignante à la Parsons Schools de Paris.
Ouais, j'ai vu ça, c'est chambé.
Voilà, donc je donne des cours de critique de la mode à des premières et deuxième années de la Parsons, en anglais en plus.
Ouais, on y est là.
Ouais, donc là on y est. La grosse problématique, ça a été que bon, le temps de valider tout ça, etc., j'ai fait valider le syllabus début janvier. Mon premier cours était mi-janvier. Donc en fait, j'avais bien sûr rien préparé.
Ouais, bien sûr.
et en fait, je me suis rendu compte de manière très très rapide que le seul moment où je pouvais préparer mon cours, qui se tient donc le mardi de 10h à 12h40, donc 2h40 en anglais en plus, tu vois. C'était le lundi soir, de 20h à 2h du matin.
C'est pas drôle,
voilà.
Sinon.
Ah bah sinon, c'est pas drôle du tout. Donc j'avais le livre à finir, j'avais ces cours-là intégrés en plus, et le Marie-Claire derrière, en sachant que je savais que je voyais venir la semaine de la couture, fin janvier.
Ah, wow.
Ouais, là j'étais un peu sur un...
En flux tendu.
Ouais, on peut dire flux tendu. Ouais, je pense que heureusement que j'ai mis le point final à ce moment-là parce que ça, je pense que derrière ça partait un peu en burn-out, je pense.
Bon, bah écoute, au moins tout ça est derrière toi. On a hâte de lire le livre en tout cas. On espère que ça rencontrera le succès que ça mérite.
Bah, j'espère. Écoute, on verra bien.
Et puis encore merci d'avoir partagé tout ça avec nous.
Ouais, c'est un super parcours. Hein.
On t'a fait vraiment faire beaucoup d'allers-retours, donc j'espère que ça perdra pas trop les gens. En tout cas, c'était un bonheur pour nous.
Ok, ben merci beaucoup.
On va finir
toujours avec des petites questions.
Oh, okay.
Petites questions gimmick.
Pour détendre un peu l'atmosphère après ce mois de janvier compliqué.
Le meilleur conseil qu'on t'ait donné.
Oh là là, ça c'est compliqué. En fait, je dois dire, je suis une très mauvaise personne parce que j'aime pas trop suivre les conseils.
Alors, celui que tu donnerais, t'aimerais en donner peut-être ?
Un conseil que moi j'aimerais donner, c'est un peu osé de donner des conseils quand on n'aime pas soi-même en recevoir.
Ou un truc que tu t'imposes à toi-même. On aime bien demander aussi, tu vois, si t'as un motto, un truc que tu t'imposes à toi.
Je suis vraiment la mauvaise élève du podcast, je pense. J'aime pas non plus m'imposer trop de choses.
Les prix,
bon,
ben,
c'est ça. Non, peut-être que ce que je pourrais dire, c'est pas forcément un conseil, mais en tout cas. Un truc à faire, je pense, c'est... Ouais, écoutez-vous, en fait, peut-être. Aujourd'hui, voilà, on est tout le temps sollicité par les réseaux sociaux, on suit tout le temps un peu la vie des uns et des autres, au final, je pense que si on s'écoute soi, on sait toujours plus ou moins ce qu'on a envie de faire. C'est aussi pour ça que moi, j'écoute très rarement, enfin, bien sûr, c'est bien d'avoir les conseils des gens, c'est bien de se faire conseiller, etc. Mais au final, on finit toujours par faire ce qu'on a envie de faire, donc... Prenez les avis extérieurs, c'est toujours bon à prendre, mais n'oubliez pas d'écouter la petite voix qui vous dit que c'est pas forcément ce que vous avez envie de faire ou que ce que vous avez envie de faire, c'est plutôt là.
Ouais. Est-ce que t'as un talent caché ?
Je sais pas si les gens appelleraient ça un talent, mais je sais rouler les yeux blancs. Et ça fait
beaucoup peur à mes parents.
Voilà. J'ai perdu tout le monde.
Non, moi, il y avait un mec à l'école qui sait qui se retourne.
Les paupières. Mais à l'époque, on faisait des jeux un peu bizarres. Ouais. On faisait ça et ma mère disait si quelqu'un vous souffle dans l'œil, vous allez rester bloqué.
Ouais, ma mère elle disait ça aussi. Tu vas rester bloqué, fais gaffe. Ça ne dissuadait pas trop, mais bon.
Ouais. Est-ce que t'as un guilty pleasure ?
Ah là là, j'en ai plein. Alors pendant longtemps, mon guilty pleasure c'était Riverdale.
Ah, ok. Une série sur Netflix.
Ouais, une série Netflix.
Ah, je sais ce que c'est. Ouais.
Qui n'a absolument aucun sens. Et après, j'ai essayé de retrouver j'ai retrouvé la raison. Je me suis dit que ça allait trop loin. Mais sinon, un autre guilty pleasure, c'est la télé-réalité.
Yes, on a fait regarder son premier épisode des Marseillais à Nico hier.
J'étais sous le choc.
Alors, voilà. Moi, bon, on va encore dire que je suis. Je vais implanter des trucs américains en France. Ou anglo-saxon en France. Je regarde pas les Marseillais. En fait, je pense que si je me lançais dedans, ça deviendrait très grave.
Très grave.
Enfin, je pourrais pas m'arrêter, donc je préfère pas me lancer.
Il y a du coup.
Du coup, moi, je suis très Love Island UK.
Ouais.
Je suis archi fan. L'idée,
c'est
en fait.
C'est trash, ça.
Ah, c'est génial. C'est que des gens en Fashion Nova dans une maison. Et ils ont.
Qui viennent pour tout sauf l'amour.
Et surtout, ils ont des accents. Ouais. Moi, c'est ça qui me passionne, c'est qu'ils ont des accents du Royaume-Uni tous différents. Donc, voir un mec de Manchester essayer de parler avec un Écossais,
c'est dingue.
Extraordinaire. Guilty pleasure. Et la famille Kardashian, forcément, et je vais regarder la prochaine série.
Ah, mais je croyais que ça s'était arrêté.
Ah non, ils ont revendu à Hulu.
Hulu ressort un truc qui s'appelle juste Kardashian.
Money.
Voilà. Alors, après, j'ai vu la bande-annonce. Je pense que ça va être beaucoup moins drôle.
Ouais, ça va être un peu différent, non ?
Je pense que ça va être très très scripté. Et que
mais c'était 100% scripté de
c'était
toute façon.
C'était ça, mais il y avait un peu la petite
non, mais si tu c'était 100% scripté, oui. Mais si tu regardes les premières saisons, on a vu
incroyable.
Des trucs que c'est
incroyable.
Impossible dans aucune
Moi,
autre réalité télé-réalité.
Un demi-épisode quand elle perd... Elle perd sa bague de fiançailles dans l'eau. Dans
l'eau c'était ses boucles d'oreilles, ses petits diamants.
Ouais, je sais plus ce que c'était.
Non mais attends, on a vu des épisodes extraordinaires
avec Kris Jenner
Courtney,
dans des situations
Kardashian a couché dans l'émission. On la voit sortir son bébé par les bras. Ah non, mais on a vu des choses que aucune quand je te dis qu'on a vu des choses qu'aucune émission de télé-réalité ne nous a montré autrement.
Ah, elles ont donné.
Ah, elles ont donné d'elles-mêmes.
C'est multi-billion company. Hein.
Maintenant, bah oui, ouais. on a pris l'argent, bien sûr.
Est-ce qu'il y a un compte Instagram que tu as envie de conseiller? Ou le dernier que tu as suivi, si tu arrives à t'en souvenir?
Ma petite mémoire. Il y a plein de comptes Instagram que j'aime bien.
Un truc auquel tu te butes, que tu regardes tous les jours.
Oh là là. Alors, ça c'est un guilty pleasure par contre. Un vrai guilty pleasure.
Allez, on combine les deux questions.
En vrai, je me trouve moche parce que je pourrais trop saucer des potes sur leur compte Insta. Ils font des trucs de dingue, même des gens que j'aime bien et tout. Mais là, dernièrement, j'ai une obsession. Ça s'appelle Fev TikToks. Et c'est les pires vidéos de TikTok que tu peux voir dans ta vie.
Et moi, je suis sur 50 millions de fragiles, c'est un peu le...
Ah, c'est pas mal. Non, mais là, tu regarderas. Moi, ce que j'adore, c'est que ça t'offre... Enfin, généralement, c'est des compilations un peu de toutes les vidéos qui t'offrent ce que j'aime appeler la boyfriend experience. Donc, c'est tous ces mecs qui font des TikTok dans lesquels ils essayent de montrer qu'ils sont les meilleurs boyfriends au monde.
Oh,
et si seulement
God.
Les femmes n'étaient pas si bêtes... Il serait déjà marié avec des enfants.
Ah,
et
oui.
Tu vois des choses extraordinaires. Tu vois des mecs qui font semblant d'être allongés à côté de toi dans un lit en mettant leur téléphone comme ça sur l'oreiller. Hello, good morning. C'est génial.
Attends, j'ai envie de voir ça.
C'est génial.
On va regarder.
C'est du bonheur en barre. Voilà. Ils vous l'indiqueront mieux parce qu'il y a plein de petits chiffres et tout. Ils vous l'indiqueront mieux.
Trop bien, merci beaucoup.
Bon, super cool.
Dernière question, non?
Ah merde, dernière question.
Il en oublie lui-même. Il a envie d'aller voir Fev TikToks.
Ah ouais, grave, tu m'as mis dedans. Est-ce qu'il y a une tendance mode que t'as jamais comprise? Tu mettrais jamais, tu dis, ah non, ça, c'est mort. Never.
Je sais pas, en fait, le truc, c'est que moi, il y a des trucs où des fois, je suis un peu genre, non, jamais et tout. Et après,
mais,
je me lâche.
Tu tentes.
Les Crocs.
Oh mon Dieu, mais c'est pas possible.
Mais il faut qu'on fasse sponsoriser ce podcast par Crocs.
Vous avez pas vu
si,
comment
j'ai
je
vu.
Suis arrivée.
Mais en c'est
plus,
celle de parcours.
J'ai failli lui faire un signe, genre.
Je les adore, je les adore. Donc voilà, je peux pas trop critiquer, mais sinon, je dois dire, il y a en tout cas une tendance sur laquelle je suis un peu dubitative ces dernières saisons. Mais je suis plus dubitative parce que pour moi, elle vient plus des réseaux sociaux qu'elle va exister, qu'elle va revenir dans la vraie réalité. C'est le string apparent.
Oh mon Dieu, j'allais te dire ça exactement.
Et en
ça
fait,
me fascine. Pourquoi?
En fait, c'est même pas tant que je suis bon, t'as envie de montrer ton string, j'ai envie de dire.
Ben non, mais ça s'appelle un sous-vêtement.
Je meurs.
C'est sous le vêtement, les gars. Arrêtez.
Moi, c'est même pas tant ça. C'est plus l'idée de, en vrai, pour l'instant, c'est quand même porté que par des meufs qui le font sur Instagram. Par conséquent, est-ce que c'est vraiment une tendance si c'est pas porté dans la vraie vie?
Oh, t'inquiète, j'en ai vu dans la vraie vie, moi.
Ah, bon,
les
voilà.
Meufs qui ont peur de rien.
Bon, ben voilà. Ben écoutez, mesdames, respect. Parce que.
Gardez
parce
vos sous-vêtements
que...
sous vos vêtements, s'il vous plaît.
Et ça va être ça le conseil.
Peut-être que tu peux, vous pouvez avoir un sponsor string et ça serait ta phrase.
Ah, oh, ce serait incroyable.
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 Ce podcast a été sponsorisé par Nom de la Marque.
Mm-hmm.
N'hésitez pas à garder vos sous-vêtements.
Sous-vêtements. Avec cette super voix, on va garder ça. Merci beaucoup, Mélodie, c'était charmé.
Ouais, c'était
merci
trop
à
bien,
vous.
Merci.